gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bienvenue dans la causerie ce soir sur Radio Cali, Sunday Night, yeah man.
Oh, on dirait une ouverture des années 80, gros. C'est horrible.
Allez, pour ça, une fête foraine.
Voilà. Donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, auditrices, vous êtes ce soir sur Radio Cali, dans la causerie. Avec autour de la table, on a Fab.
Salut.
On a Jean-Yves.
Bonsoir.
On a aussi un invité, Kamel.
Salut tout le monde.
Alors là, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu quelques fois. À la technique, sublime Clara.
Bonsoir.
Et Jonathan.
Voilà, on verra bien. Okay. On verra bien, on va dire Jonathan. Il y a des rumeurs comme qui diraient que je m'appelle Adeline aussi.
Ben ouais, je sais pas.
Des trucs comme ça, ouais. Chelou.
Eh bien, Jonathan, bienvenue.
Et bon, évidemment, hein, histoire de rester correct, vous pouvez nous écouter présentement sur le 102.2 Onde FM.
Ouais.
Vous pouvez aussi nous écouter sur la causerie. Sur radiocanu.org.
Ouais.
Voilà. Et puis si vous voulez nous écrire, parce qu'on aime bien ça, vous pouvez le faire sur Gmail, la causerie canu, tout attaché en minuscule, @gmail.com, ou alors nous laisser des petits messages sur notre blog. Alors c'est très simple, vous allez sur blogs au pluriel .radiocanu.org/la causerie. Et voilà. Et on va commencer tout de suite avec des moustiques. Parce que ce soir, spécial guest moustique dans le studio. Avec Jean-Yves qui va nous parler de la question de la construction des genres, n'est-il pas ?
C'est à peu près ça. Oh, pardon, je m'entends avec une forme de résonance, ce n'est pas grave. Ah, c'est mieux. Merci à la technique. Alors ouais, je vais vous parler d'un article du journal Libération du 1er juin. Qui nous cause d'une étude, d'une enquête sur les violences sexistes à l'école commandée par et pour l'association Ensemble contre la gynophobie et qui a été réalisée avec plus de 47 000 témoignages d'élèves de 8 à 19 ans. Alors, il y a Éric Debarbieux, qui est sociologue, hein, qui est le sociologue qui a réalisé cette enquête avec deux autres chercheurs, chercheuses et une autre personne encore. Alors lui, il nous dit qu'en fait, et je le cite, « Toute violence peut avoir une connotation sexiste. Mais les violences sexistes ne signifient pas qu'elles sont sexuelles. Viol, agression, etc. » Pardon. Il s'agit là de la construction qui peut amener ensuite à la violence sexuelle. Ça commence par des insultes, des baisers forcés, du voyeurisme dans les toilettes. Et donc avec ce rapport, en fait, ils ont essayé de résoudre ce qu'ils appellent, eux en tout cas, l'énigme de l'oppression viriliste. Et je les cite encore, hein, comment passe-t-on d'une surexposition des jeunes hommes à la violence scolaire, à une surexposition des femmes devenues adultes? Est-ce au moins en partie à cette violence contre les garçons, et on peut le présumer entre les garçons, que nous devons relier la violence ultérieure contre les femmes? Donc, je vais vous citer quand même quelques données, en fait, hein, qui vont parfois à contre-courant quand même de certaines idées préconçues. Parce que, en fait, les garçons qui sont majoritairement les auteurs d'agressions sont au moins tout autant victimes de violences sexistes en milieu scolaire. Hein. On reste bien dans ce cadre-là. Hein. Donc en primaire, par exemple, les garçons sont plus victimes d'insultes et de menaces. 65% contre 55% pour les filles. Mais aussi de déshabillage forcé, par exemple. Ça concerne 14,2% pour les mecs et 10,3% pour les filles. On n'est pas non plus dans des écarts du simple double, hein, mais voilà. Un peu plus des filles, donc 20% que de garçons, 18,4%, rapportent avoir été regardées aux toilettes. Au collège, les adolescents sont toujours plus victimes d'insultes, 56% contre 47% pour les filles, tandis que les filles se plaignent davantage d'être mises à l'écart, 32% contre 26%, et de subir des moqueries sur leur sexualité. Là, c'est vraiment un tout petit écart de 0,5 points. Et ensuite, les lycéens et les lycéennes qui ont été interrogés, elles et eux, sur cette question plus précise. Alors là, je ne vais pas vous la redonner, mais l'étude, au cas où, elle fait 130 pages, elle est disponible, on pourra peut-être la mettre sur le blog à la rigueur, si vous avez envie de lire les 130 pages. Et donc, il en ressort notamment... au niveau des lycéens et lycéennes, que les garçons sont plus exposés aux insultes homophobes. On est à 21% pour les mecs et 13,8% pour les filles. Ensuite, on a 6,6% de jeunes, sans distinction de sexe, qui rapportent des situations de voyeurisme. On a 5% de garçons et 2,2% de filles qui ont aussi souffert de la diffusion d'images intimes. Donc, et là aussi, le déshabillage forcé touche encore à cet âge-là, 5,1% pardon, de garçons et 2,2% de filles. Et donc, dans le truc, enfin dans l'étude, on a aussi des témoignages, dont celui-ci qui est en lien direct. C'est l'histoire de Benoît, 18 ans, témoigne aussi de la virulence des violences entre garçons. Je le cite. En première, j'étais en atelier. Je demande à aller aux toilettes et constate que je suis suivi par des gars de ma classe. L'un d'eux me saisit et me plaque au sol pendant qu'un autre éteint la lumière. Je sens alors le troisième me plaquer son sexe contre le visage. Humilié, je n'ai rien dit, de peur d'être jugé. Puis s'en suivent les surnoms douteux, bifle, tête de bite, suceuse, grosse catin, etc. etc. Donc là, on en vient à la construction finalement de ce mâle alpha, parce que c'est quand même ça qui ressort. Hein. C'est toujours le sociologue en fait qui analyse, en fait, et je le cite parce qu'il l'a fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc ces violences entre garçons s'inscrivent dans un refus du féminin. Elles vont souvent se porter contre les garçons, considérés comme plus faibles, doux, qui sont quelque part accusés d'être des femmes. Le virilisme a besoin de dominer et va d'abord le faire avec le garçon. Lorsqu'il va grandir, il aura l'habitude d'être le dominant et ça se transformera par exemple avec sa compagne.
En fait, on construit un modèle viriliste par l'humiliation. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être humilié, tu dois prendre le contre-pied, devenir un humiliateur.
C'est ça. Parce que oui, il faut que tu es dominant, le mâle alpha est dominant en fait. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et on a une des chercheuses qui, elle, rajoute... c'est merveilleux, c'était ironique. Hein,
évidemment. Oui, oui.
On a une des autres chercheuses qui rajoute, ils veulent prouver qu'ils sont des vrais mecs. Le vrai, hein, évidemment, entre guillemets. J'ai pu le constater au collège avec le chabit, je vous donne tout ce qui est dit, le pendant masculin du chacu, qui lui consiste en fait à toucher les fesses des filles, et où l'on humilie par le sexuel. Les garçons vont ramener les filles à leur corps pour prouver publiquement qu'ils en sont, des vrais garçons hétérosexuels, et humilié avec le chabit, pression des parties génitales, les garçons ramenés au féminin, qui selon eux n'en sont pas. Et il est important de jouer sur cette oppression viriliste pour avoir un impact sur les violences contre les femmes. Parce que c'est lié. Donc la suite, hein, c'est que effectivement l'école participerait à la construction de ce stéréotype du mâle alpha en mettant en place un enseignement différencié, en octroyant une place plus importante aux garçons dans la cour, ou encore en créant un sentiment d'injustice par des punitions répétées à l'encontre des garçons. Je cite encore, hein, deux fois plus de garçons subissent des moqueries car ils sont bons élèves. Ils ne répondent pas au schéma viriliste, alors que pour une fille, c'est considéré comme plus normal. Relève toujours le sociologue. Le rapport souligne toutefois que si l'école participe à la construction des violences subies par les femmes, elle est aussi un lieu de leur prévention. Pour ce faire, les deux facteurs essentiels sont à travailler selon les auteurs. C'est la formation et la stabilité des équipes scolaires dans le cadre du scolaire. Alors, on n'est pas forcément d'accord, on peut trouver ça pas suffisant, on est d'accord.
Je trouve même que c'est un même truc qu'on ressort à chaque fois.
Mais c'est toute la problématique.
Et, et j'ai l'impression qu'en fait, ça ne suffit pas, on le voit. Quoi.
Bah, c'est connu quand même depuis les années 80, hein, enfin, j'ai envie de dire depuis la massification de l'éducation nationale, qu'on a besoin d'une formation des enseignants qui soit un petit peu plus axée sur ces problématiques sociales. Et il y en a plein qui disent qu'il le faut, il n'y en a pas un pour pondre une méthodologie qui puisse être appliquée réellement sur le terrain, avec les professeurs mis en place. Donc.
Mais c'est tout le truc en plus, et que je pense qu'en plus ce genre de choses-là, c'est multiforme en fait. Donc une formation de un jour, trois jours, quatre jours, oui. Je m'en fous, mais c'est pas suffisant en fait, parce qu'il y a une multitude de formes de toutes ces choses-là, etc. Donc il faudrait apprendre la subtilité pour comprendre toutes ces choses qui se trament en fait par des petites choses des fois.
Ouais, mais ça impliquerait un suivi, non?
Ah bah ça impliquerait un suivi et un budget, et je crois qu'en ce moment l'État n'est pas très fan de budget pour les choses qui n'en rapportent pas.
Bah ça c'est sûr.
Là on dit pas de conneries, ok. Et donc il est évident, alors que tout ne se joue pas à l'école, hein, c'est quand même ce qu'ils disent, et que d'autres raisons entrent encore en considération. L'environnement, le contexte, etc., l'influence du cercle amical, etc., etc.
Et familial.
Oui, oui, c'est l'environnement familial. Oui, c'était l'environnement familial. Hein. Et alors, il s'agit évidemment ici pas de nier, ni pour les auteurs de l'enquête, ni pour moi, que les violences physiques et sexuelles exercées en France, comme partout ailleurs, qui touchent majoritairement, très majoritairement, des femmes et sont le fait d'hommes. Ça, c'est en plus vraiment dans le rapport, c'est vraiment précisé.
C'est plutôt la construction qui cherche à comprendre.
C'est exactement ça en fait. Et c'est ce qu'il rajoute, hein, c'est les chiffres officiels, les recherches internationales sont parfaitement en accord sur cela et on en parle, même nous, ici, régulièrement quand même de toutes ces choses-là. Donc il ne s'agit pas du tout de nier quoi que ce soit. Et c'est juste que toutefois, bah, le tableau il est différent en milieu scolaire où les garçons sont en moyenne plus surexposés à la violence brutale, aux violences verbales et au harcèlement, tout en restant les principaux agresseurs.
Bah, l'école, c'est pas le lieu d'apprentissage par excellence.
Bah voilà, ils apprennent tout en fait. Bah oui. Et quand qu'on se rappelle, si la virilité fait des victimes, elles n'ont pas qu'un seul sexe en fait. Donc ça aussi, c'est les auteurs qui le disent, même si elles ont un genre très majoritaire. En France comme ailleurs dans le monde, et sans l'ombre d'un doute, les femmes jeunes et adultes sont bien plus exposées aux violences physiques et ou sexuelles que les hommes. Donc là encore une fois, hein, il ne s'agit pas non plus pour moi en fait d'opposer les victimes, d'opposer les choses. Pour moi, elles s'additionnent. C'est peut-être plus ça qu'il faudrait qu'on intègre en fait, je pense, dans nos analyses. Elles s'accumulent en fait, et elles sont toutes les victimes d'un même processus. La hiérarchisation des individus, l'effacement des individus au profit d'une construction sociale, le mâle viril et les autres. Parce que on voit bien, les mecs peuvent aussi forcément être discriminés parce qu'ils sont pas les mâles virils qu'on attend, hein, évidemment.
J'ai cru connaître ça dans ma vie, moi, personnellement. C'est pas le mâle viril qu'on attendait, même.
J'en étais où? Et oui, celui qui doit dominer, hein, c'est donc toujours ce mâle viril alpha, là, qui doit avoir le pouvoir sur les autres, et donc les autres, qui doivent se taire, se soumettre au pseudo-pouvoir du mâle alpha. Et c'est pour moi, encore une fois, une preuve, en tout cas pour moi, que nous devons parler de pouvoir en fait.
Oui.
Parce que pas
de pouvoir et de domination.
C'est ça.
Oui. Ah mais
parce que c'est deux choses qui sont parfois similaires mais pas toujours.
Oui.
Parce qu'on peut avoir de la domination douce, tu sais. Le côté je domine parce que je sais que c'est bon pour vous.
Oui, effectivement.
Mange petit, c'est pour ton bien.
Voilà. C'est ça. Après, ce que je me disais, c'est que de toute façon, enfin.
Non mais je suis d'accord avec toi sur la notion de pouvoir.
C'est difficile d'avoir de hiérarchiser les humains sans notion de pouvoir.
Oui, tout à fait.
Mais cette étude, enfin, excuse-moi, je t'interromps deux minutes, mais cette étude, elle montre bien quelque chose qu'on soupçonnait déjà dans ce qu'on voyait dans les diverses agressions sexuelles. C'est que le principe, il n'est pas de montrer qu'un genre est plus fort que l'autre. Le principe, c'est un individu qui exerce sa domination sur un autre et qui va choisir des victimes, parce que le mot c'est victime, en fonction de ses capacités à lui. Donc, du coup, il sait ce qu'il fait, et donc là, en fait, on apprend aux petits garçons, par le jeu, par le modèle, par l'imitation, à créer, voilà, comme tu dis, des personnages dominateurs. Voilà. C'est pas. Là où ça me plaît qu'il y ait enfin une étude là-dessus, c'est qu'on arrête de dire que les hommes sont comme ça par nature. Parce que non, c'est une construction. Les hommes ne sont pas obligés d'être tous violents, d'être tous cons, d'être tous... Enfin, excusez-moi.
Il n'y a pas de nature féminine, il n'y a pas de nature masculine.
Voilà. Il y a une nature dominatrice, castratrice au sens large. Parce qu'on peut castrer les femmes.
Vous terminez carrément ma chronique. Mais je vais quand même aller au bout.
Désolée.
Non, mais c'est pas grave, je vais quand même aller au bout. Genre, j'ai pas fait ça pour rien. Et donc je disais, ouais, parler de pouvoir et comment on fait en fait pour le mettre de côté en fait. Comment on le refuse dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport aux autres. Et ça, c'est hyper important. Je pense que vraiment, il faut qu'on essaie de voir ça sous le prisme effectivement de la hiérarchie du pouvoir et aussi effectivement de l'oppression. Comment on aide en fait les individus à se construire, non pas selon leur genre, leur sexe, ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, en tout cas ce qu'il y a entre les jambes, et bien en fait selon leur individu, c'est-à-dire leur individualité, qu'est-ce que tu as envie, enfin, qu'on fasse attention à ça quoi. Et que cela se passe évidemment au-delà du cadre de l'école, parce que quand même, là aussi, moi j'ai l'impression que, tiens, d'un coup, l'école devrait être un lieu qui est quasi hors société, alors qu'en fait, bah non, en fait, hein, c'est... Ouais. On dépose pas ses bagages à l'entrée d'une école et on les reprend pas le soir, en fait, quoi.
Je vais dire un truc que je voulais dire avant, mais en fait, cette étude, j'ai lu l'article en question, et je trouve qu'encore une fois, on tombe dans la fétichisation de l'école, qui devrait résoudre tous les problèmes de la société, et ça, c'est une énorme connerie. Alors, je vais expliquer pourquoi je dis ça, parce que le mâle alpha, en fait, il se construit pas qu'à l'école. Est-ce que vous avez déjà vu des parents d'élèves sur un bord de stade de foot quand leur gamin joue? Moi, j'ai vu des parents dire à leur gamin, tue-les, parce que c'est eux les ennemis. Et ben, enfin, pardon,
on dirait
les adversaires. Mais ouais, et en fait, ça, c'est de la construction de mal alpha aussi. Je dirais à un moment donné, quand on a ce genre de façon de parler, et ça c'est pas l'école, ça c'est la famille, c'est les gens, voilà. Et moi la problématique c'est de penser que l'école pourrait résoudre tous les problèmes de la société. Je trouve que c'est très élitiste en fait, et on tombe toujours dans ce truc là. Et surtout là où je voulais en venir, c'est que l'école est un lieu de domination, parce qu'à l'école, quand vous êtes élève, on vous demande de vous soumettre à ce qu'on vous apprend et de vous soumettre à vos maîtres et à l'autorité. Et qu'en fait, je suis désolé, mais dans les méthodes d'éducation, moi, on dit souvent la maîtresse, elle est plus douce que le maître. Vous savez, c'est le truc.
On est dans une construction de genre totale.
Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on est, on est en train de nous faire, encore une fois, croire, parce que pour moi, c'est de la croyance, qu'il suffirait de mettre une bonne petite règle à l'école pour que toute la société aille mieux. Bah, c'est pas vrai. C'est comme les gens qui rêvent de remettre le service national pour remettre les gens dans le droit chemin. Tout ça, tous ces fétiches, en fait, ce ne sont que des fétiches. Et c'est bien la société dans son ensemble qu'il faut changer.
Eh ben, après, à un moment donné, si c'est une institution, enfin, je suis désolée, mais elle est là pour préserver le pouvoir de l'État. Donc, une institution, ça peut pas être dissocié du pouvoir. Donc, l'école est une institution, l'armée est une institution, la police est une institution. Donc, les gars, voilà, réveillez-vous.
Voilà. Bon, je peux aller au bout de ma
chronique. Ah oui, pardon, excuse-moi.
Alors, mais j'adore, de toute façon, c'est juste, je vais faire la répète, mais effectivement, moi, c'est ce que je notais, c'est que c'est aussi à la maison, en fait. C'est, les parents sont pas les derniers à avoir des clichés. Enfin, je veux dire, j'ai bossé dans du social, j'ai déjà entendu des parents, et même des mamans, dire à leur garçon, ne pleure pas, t'es un garçon. Et pourquoi en fait? C'est un être humain qui a pas de sentiments en fait, un truc qui a un...
Il a pas de larmes.
Oui, c'est ça. Et que c'est aussi avec les amis, je veux dire, les bastons entre bonhommes, c'est bien se mesurer, se construire en tant que bonhomme, celui qui va dominer les autres. Il y a aussi le club de sport, etc., etc. Et qu'on doit aussi interroger les stéréotypes pour ensuite, enfin, les détruire quoi. Celui qui dit que les filles sont douces et calmes, forcément, quand les garçons, eux, sont bagarreurs et ben oui, ne pleurent pas évidemment. Et que ben... Et il y a aussi celui qui dit que, vous savez, il y a un instinct maternel. C'est très beau. Et c'est souvent le même aussi qui dit que les hommes ont des pulsions. Donc que crèvent les stéréotypes, que crèvent à peu près tout ça. Et amusons-nous à réinventer des choses, à aller au-delà de juste encore une étude. Et voilà quoi, le pouvoir, il s'interroge. Encore une fois, on le dit souvent ici, mais c'est partout, tout le temps à la fois en fait. C'est ça qu'il faut avoir aussi, une vision multiple en fait. Pardon, et tu voulais dire un truc encore.
John Stoltenberg. Je voulais juste dire ça.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais oui, je vous réinvite à lire John Stoltenberg, que crève la virilité et tout ça.
Refuser d'être un homme.
Refuser d'être un homme pour en finir avec le mythe de la virilité. Je vous invite encore à le faire, mais ça appartient à tout le monde, partout, tout le temps. Vraiment.
Mesdames, le virilisme n'est pas entretenu que par les hommes.
Ah bah non.
Donc voilà, arrêtez de aussi de dire à vos enfants, c'est bien, tu es un garçon, t'as bien fait de lui péter la gueule à ce connard.
C'est ça.
Apprenez à vos filles à péter la gueule aussi.
Non, bah, c'est pas ça. Ouais, ou que les gens puissent communiquer sans aller directement.
Ah, c'est pas ça que tu voulais dire. Bon.
Après, chacun son truc. Hein. Enfin, voilà, moi je.
Eh ben, on passe à la musique.
Dans la vieille cité française existe une race de frères dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffrir rime rêveur. Un sonnéa, c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux, car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Eh bien vous aussi vous en êtes, je le souhaite en tout cas. Eh bien vous êtes toujours dans la causerie, on vient de s'écouter en forme d'hommage à Marc Augeret qui est décédé, je crois, lundi dernier.
Lundi, oui.
Eh bien, c'était le titre La Canaille, et on vous invite, et on terminera par encore un titre de Marc Augeret, mais vraiment, on vous invite à découvrir tout ce qu'a fait ce monsieur.
Ah, il a fait beaucoup de chants révolutionnaires, mais il a aussi chanté les poètes.
Il a fait d'autres choses aussi, c'est vrai. Eh bien, sujet 2, eh ben, c'est John Adeline qui nous parle d'une émission. Vas-y, je te laisse.
Plein de trucs. Alors, c'est ça. Pour préciser à nos auditeurs, déjà, pour commencer, pourquoi on m'appelle John Adeline depuis le début de l'émission, c'est parce qu'il y a quelques émissions de ça, j'avais essayé d'en parler, j'essaye encore d'en parler, c'est difficile, mais voilà, j'ai plusieurs appellations, labels. Et donc, Jonathan à la radio, Adeline ou Dedeuche, parfois vous avez pu m'entendre à la causerie déjà.
C'est vrai.
Et donc, pourquoi tous ces noms ? Eh bien, parce qu'à chaque nom, un personnage, donc Jonathan, l'animatrice de radio, et co-animatrice, co-chroniqueuse. Et du coup, pourquoi je vous parle de ces personnages ? Eh bien, parce que je vais vous parler de personnages, mais de manière un petit peu plus significative avec le télécrochet RuPaul's Drag Race. Et donc on a Kamel avec nous dans l'émission pour en parler.
Ah ben oui, avec grand plaisir, voilà, étant un grand fan en plus. Voilà,
pour en discuter un petit peu. Alors, tu m'arrêtes si je me plante, mais RuPaul's Drag Race, c'est quoi? Alors déjà, c'est la course aux dragues de RuPaul.
C'est une compétition en fait.
C'est une compétition, c'est un télécrochet où plusieurs drag queens sont mis finalement devant l'œil du jury qui se compose de 5 personnes, mais essentiellement de RuPaul qui finit par prendre toutes les décisions tout seul.
C'est lui le seul qui prend la décision finale d'ailleurs.
Exactement, c'est d'ailleurs elle finalement qui élit ses girls, parce que Bring Back My Girls.
Elle les appelle les girls, effectivement.
Voilà, alors la date de création du télécrochet, 2009. On a 9 saisons, une 10e à venir sur Netflix.
Qui est déjà en cours de diffusion aux États-Unis et qu'on attend bien patiemment que ce soit sur Netflix.
Voilà. Et le principe, c'est de désigner la future drag queen superstar de l'année en cours. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est plusieurs épreuves sur lesquelles elles sont jugées, évaluées, donc que ce soit des épreuves de couture, de défilé, de comédie, de chant, de lip-sync.
Et le fameux lip-sync, c'est...
Le playback.
Exactement, c'est le talent.
Pour le dire en français.
Le playback. C'est bizarre d'ailleurs, le playback qui est un nom anglais.
Et ouais, on dit lip sync. Et ça s'appelle pas. Voilà.
Bah oui, ça n'a jamais appelé playback en anglais en fait, hein, mais c'est qu'en français.
Alors, dans RuPaul's Drag Race, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a essentiellement des hommes qui se transforment en femmes parce que c'est du transformisme. Alors, déjà, il faudrait apporter une petite précision. Le drag, c'est du transformisme. Ce n'est pas ni le fait d'être transgenre, ni le fait d'être transsexuel. Et ce n'est pas forcément lié à l'homosexualité, même si c'est aussi un mouvement porté par la communauté LGBT et qui réunit des membres de la communauté LGBT. Donc,
mais il y a des drag hétéros, j'en ai connu.
Il y a des drag hétéros, il y a des drag queens femmes, des drag kings hommes. Et donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le genre, mais simplement le personnage qu'on choisit d'interpréter, puisque ce personnage est public. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage intime, c'est un personnage de show, c'est un personnage qui va être interprété, ce n'est pas du tout obligé d'être en corrélation avec votre personnalité, et généralement, pour beaucoup de drag queens, ça va être le personnage qui est en eux, et qu'il va falloir faire sortir de manière plus ou moins exubérante.
C'est ça, mais complètement. C'est une sorte d'exutoire, en fait. C'est une sorte de révélation aussi des personnes qui ont vécu aussi... qui ont quand même pas mal galéré finalement. Et le drag queen en fait, c'est sa sorte de sortie, de moyen pour lui aussi de s'exprimer, d'être ce qu'il est effectivement.
Et puis c'est un personnage qui a de la superbe, qui a tendance à être imposant, qui va montrer que il ne se fait pas écraser. Donc ça rejoint à ce que tu dis aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est se créer un personnage bouclier, quelque chose qui va pour nous pouvoir tout encaisser.
C'est d'ailleurs pour ça que souvent les drag queens ont un sens de la répartie assez élevé et qui est très appréciable.
Extrêmement, extrêmement travaillé d'ailleurs.
Et vous pas oublier d'ailleurs que le drag queen, ça en sauvait plus d'un d'ailleurs, oui, de se transformer et de se révéler ainsi. Et beaucoup ont échappé aussi à, on peut le dire, à des tentatives de suicide.
Mais
suite
totalement
à des rejets. Et le drag queen, c'est pour eux un moment de se libérer et d'affronter aussi la vie.
Et puis on est reconnu. Parce que, pour en revenir un petit peu à RuPaul, finalement, c'est qui est ce personnage? Pourquoi ce personnage, aujourd'hui, en 2018, a vraiment eu toute une part de la scène médiatique pour elle et pour son show et pour tout ce qu'elle continue à émaner de là? C'est parce que c'est une icône. C'est-à-dire que le personnage est devenu tellement grandiose qu'il a pris la place. Alors, pour revenir un petit peu sur son histoire, RuPaul, c'est un monsieur à la base qui est né en 1960 à San Diego, à Atlanta. Alors, vous trouverez son nom, son prénom, la totalité des informations sur Wikipédia, sur son site aussi. Donc, c'est RuPaul.com. Et donc, c'est un homme qui, à la base, était homosexuel, travaillait dans le showbiz. Enfin, il est toujours homosexuel, il n'est pas mort. J'en parle au passé parce que c'était avant qu'il devienne RuPaul, la drag queen. Donc, et il travaillait dans le showbiz. Il était dans la musique de manière assez discrète, jusque dans les années 90 où finalement il a débarqué à New York et il a décidé de faire un spectacle, de transformisme. Il s'est fait élire donc en 1989 Queen of Manhattan. Voilà, parce que son personnage, en fait, sur scène, chantait, faisait des imitations, était déjà dans un spectacle complet, avec des tenues complètes, et une transformation qui était bluffante. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il a continué à chanter, il a continué à faire des spectacles, et il a commencé à animer des émissions. Il a aussi rencontré des grands animateurs et animatrices d'émissions, notamment oui.
Une certaine Oprah Winfrey.
Voilà, très peu connue.
Pas très connue aux États-Unis.
Voilà, et il a beaucoup collaboré avec tous ces personnages médiatiques finalement qui vont prôner le progressisme sous toutes ses formes.
Alors, il faut aussi se remettre dans le New York des années 90 parce que ça, c'est on est post-SIDA comme on dit. C'est le moment de la renaissance en fait du milieu LGBT à New York et aussi l'émergence du milieu queer, du voguing, de tout ce qui a été en fait porté à l'époque pour remettre un petit peu de comment dire de paillettes dans un monde où c'était très très triste. Voilà, donc on est dans l'exubérance de cette période là, quoi.
Et dans l'avènement des clubs nouvelle génération. Génération new-yorkaise aussi, qui propose des œuvres musicales, théâtrales et audiovisuelles. Et donc, qui permettent des performances qui ne seront pas seulement scéniques, mais totalement artistiques. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'un drag queen est un artiste à part entière.
Un performer, oui, exactement.
Voilà, quelqu'un.
Pour faire son show.
Bah, c'est du boulot, hein, en plus. Enfin, moi, je vois dans les. J'ai vu quelques. Partie d'émission, rien que la transformation est un boulot énorme, quoi. Enfin.
Eh bien, on voit bien. Alors. Je finis vite fait avec RuPaul et puis ensuite on rediscute un petit peu du cœur de l'émission parce que donc c'est un icône de la lutte LGBT qui a apporté sa contribution à la scène médiatique mais qui fait aussi entrer le monde LGBT, la drag queen dans le foyer de l'américain moyen. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a énormément démocratisé la lutte LGBT.
Ah, clairement,
et qui a permis l'ouverture d'esprit aux États-Unis. Je pense que c'est un des principaux acteurs de l'ouverture d'esprit de l'américain moyen, quoi.
C'est surtout un des premiers qui a osé parler à la télévision des suicides chez les LGBT et en particulier chez les personnes trans. C'est un des premiers qui en a parlé ouvertement à la télé et ça a fait un bien fou parce que, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, mais on mettait enfin des mots sur quelque chose qu'on savait, c'est-à-dire qu'on savait que des gens se suicidaient, on savait que, et enfin il y avait quelqu'un qui avait l'aura médiatique qui a dit mais au fait je vous rappelle juste qu'il y a ça. Voilà, c'est important.
C'est exactement le rôle, il me semble, qu'il s'est donné parce que il prend parti systématiquement en public. Donc dès qu'on lui pose la question, et donc ça va être un parti qui va être pour les libertés individuelles, le vivre ensemble, l'égalité, l'épanouissement des individus, quel que soit leur sexe, leur genre et leur sexualité. Et à côté de ça, ben on a un personnage qui est lui. Qui a l'air très très à l'aise au final, donc qui est un petit peu modèle. Et qui amène aussi des questions débat qu'est-ce qu'un drag queen, comment on peut exercer le drag. Parce que on voit bien que, notamment dans l'émission, qu'il y a des dissensions dans les points de vue. Par exemple, des drag queens qui n'acceptent pas que des personnes hétérosexuelles deviennent drag.
Bah, du coup, ils s'enferment un petit peu dans cette communauté, effectivement, et n'acceptent pas que les hétéros puissent faire du transformisme, ou même que des personnes trans aussi fassent du transformisme, alors que le message qui est lancé, c'est l'ouverture d'esprit, au contraire, et l'acceptation.
Voilà, donc c'est vrai que RuPaul, dans une de ses émissions, va montrer systématiquement que non, ça, à un moment donné, on accepte tout le monde. Parce que le principe, il est d'être ouvert d'esprit, il est de réussir aussi à laisser la place à chacun de s'exprimer, comme il le souhaite. Il y a aussi la question du port de la barbe, oui ou non, Conchita Wurst. Hein, est-ce qu'on porte la barbe en étant drag queen ou pas ? Est-ce qu'une femme à barbe est une drag queen ?
C'est marrant parce que c'est une grande tendance en ce moment.
Oui, parce qu'on y revient. On y revient pas mal. Mais parce
souvent,
que...
c'est Conchita Wurst qui a relancé le truc.
Mais parce qu'il... ça existe, mais oui.
Parce qu'il y a cette notion de créature quelque part, c'est-à-dire que le drag queen est un personnage public. Donc il faut qu'il y ait ce côté créaturesque, si je peux m'exprimer, avec souvent on le voit, hein, des costumes qui vont sortir un petit peu de l'esthétique mode habituelle pour aller vers vraiment de la SF ou de l'imagé. Et puis évidemment il y a la question, est-ce qu'un drag queen est obligé d'être sexy, glamour ou pas ? Est-ce qu'il peut être burlesque ? Est-ce qu'il peut être
trash ? aussi, non ?
Bah, il y a de tout. En fait, il y a de tout hein, dans les drag queens. Hein. D'ailleurs, il y a des catégories un petit peu, comment on peut appeler ça. Il y a les drag queens, par exemple, qui vont vraiment essayer d'être un personnage très féminin et d'aller au plus près de la féminité. On va les appeler les pageant girls. On est pageant queen aussi, non ? C'est vraiment les fishy queen. C'est une expression aux États-Unis. To look fishy, c'est être sublime, en fait. Il va y avoir les comedy queen, c'est les fameuses drag queen burlesques, hein, qui vont justement avoir un maquillage un peu outrancier, un peu clown, quoi, on va dire, mais qui leur ressemble, qui leur appartient. Et du coup, voilà, les pageant girls. Il y en a beaucoup hein, également. Il y a les SF, hein, un petit peu mode très trash aussi.
Oui. Non, t'inquiète pas. C'est
le téléphone de Jean-Yves qu'on entend dans nos micros.
Voilà, pardon. Non, du coup, voilà, effectivement, du coup, on va retrouver également un peu très dark les drag queens, en fait. Et puis, ça va plutôt révéler, en fait, ce qu'elles sont à l'intérieur, tout simplement.
Oui.
En effet, il y a beaucoup de la question de quel type de personnage, quel type de drag. On adapte en fonction de ce que nous on est capable de donner au public, enfin ce que nous, parce que.
Et du coup, moi j'avais juste une question, parce qu'on parlait de RuPaul Drag Race, est-ce qu'on voit tous ces types de drag dans l'émission? Oui. Je la connais pas vraiment, hein, donc voilà.
Justement, ouais. Voilà, c'est l'avantage, c'est que c'est pas un télécrochet stupide à mon sens, parce que j'allais y venir, j'allais poser la question à Camille, qu'est-ce qui te plaît toi, parce que
C'est la diversité des candidats, autant dans l'âge par exemple, dans leur expérience, dans les styles. Hein. On retrouve effectivement, on essaye d'homogénéiser un petit peu ce qu'il y a de vrai en fait dans le drag queen, hein, ce qu'il existe, hein, on va pas en choisir une plus que d'autres, et puis après voilà, c'est la compétition, et puis voilà, c'est celle qui va,
puis c'est tourné beaucoup en dérision, c'est fait en sorte pour que les choses soient prises au sérieux mais pas de manière trop dramatique, la chose est faite pour faire rire, ça va envoyer un petit peu des vacheries à un moment donné, mais parce que c'est dans les personnages burlesques,
c'est dans leur rôle hein, tout simplement,
c'est ça.
On y retrouve malgré tout une certaine solidarité entre elles, qui fait que même si elles s'envoient des piques, des vacheries, qu'on peut trouver des fois que c'est un peu osé, mais au final c'est des personnages en dehors de la télé qui se retrouvent tous ensemble et qui partagent finalement
il y a un truc aussi qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir des vrais conflits, comme on pourrait retrouver dans des émissions de télé-réalité ou dans d'autres télécrochets, où d'habitude le producteur va faire en sorte de continuer surenchérir sur le conflit, là RuPaul arrive, essaye de désamorcer, met les choses en place pour qu'il y ait une communication. Voilà. On prend un peu le contre-pied sur chaque cliché en fait, du télécrochet. Ouais.
Mais c'est de l'humain en même temps. Il y a aussi des questions d'ego. Hein. C'est des personnages qui sont là pour faire de la performance, pour atteindre une première place à la fin. Forcément, à un moment donné, ils sont enfermés dans des studios où ils vont devoir gagner des challenges et la finale à la fin. Forcément, les personnalités, les caractères font que des fois ça s'effrite, puisqu'on. Comme tous les humains, on n'est pas forcément obligé de s'entendre avec tout le monde. Hein.
Il y a une compétition quand même. Donc
c'est le nerf de la guerre, hein, bien sûr.
Et moi, j'avais une question. Donc, on parle d'humour camp, ça vous parle ? Ça, c'est l'humour un petit peu décalé qu'on donne aux drag et au milieu gay en général, au milieu LGBT. Donc on le retrouve dans l'émission aussi, ce côté un peu vachard, un peu décalé. Parce que moi, j'ai l'image de RuPaul vraiment comme une drag extrêmement acide.
Elle est plutôt dans la subtilité, elle va jamais dire des grossièretés on peut l'entendre des fois.
Mais en effet, elle est piquante. Voilà. Elle est piquante. Et puis c'est une mère, c'est une mère drag queen, cette femme. C'est pas juste une drag queen aussi. Il y a ce côté-là, elle a un charisme, un bagou.
Aussi, comme je disais, c'est avec son expérience, le fait qu'elle soit une icône et qu'elle représente un modèle pour énormément de jeunes, hein, pas forcément jeunes homo. Lesbienne, trans, c'est vraiment pour toute une jeunesse qui se sert de RuPaul comme un modèle d'émancipation, d'ouverture, de liberté. Et elle se fait appeler Mother, forcément.
Voilà, ah oui. Parce qu'elle a ce côté
vieille.
Elle le revendique, elle fait partie de la première génération, et elle est là justement pour que les générations suivantes puisse porter ce flambeau parce qu'elle n'est pas éternelle. Hein,
alors, moi, puis... je ne disais pas ça de façon négative.
Non, bien sûr.
C'est que je trouve génial que dans le milieu drag, enfin, on ait aussi des personnes qui sont plus âgées.
Ils assument.
Parce que, qui, oui, puis qui le sont. Parce ouais, que, je veux dire, c'est cool.
Les personnes qui ont aujourd'hui, donc, dès l'âge de RuPaul, qui sont nées dans les années 60, donc ouais. qui ont 60 ans.
Ouais, c'est ça.
Là, hein, 58 ans. C'est des personnes qui ont été au début de ce mouvement-là, donc qui ont la base. Maintenant, voilà, moi, ce que j'aime chez RuPaul, c'est que elle va pas forcément dire c'est un mouvement clos et fermé. Je trouve qu'elle est extrêmement progressiste dans ses propos, dans sa façon d'amener les choses. Rien n'est fermé, que ce soit dans la pratique du drag ou dans la façon d'y accéder ou dans ce que ça doit communiquer. Maintenant, bien sûr, bah, ça reste des messages très voilà, bienveillant et encore une fois progressiste. Après, il y a autre chose aussi, c'est que la drag queen est un personnage qui va être à la fois classe, glamour, mystérieux, talentueux, impertinent et original. Donc à partir de là, on va forcément avoir de la vanne, on va forcément avoir du second degré, on va forcément avoir de la punchline, on va forcément avoir du maquillage, des paillettes, des robes spectaculaires, du défilé de mode, du théâtre, de la répartie, de la chanson, du lip-sync, autrement dit playback, et de la gestuelle, parce qu'on est dans quelque chose qui est complet. Moi, je suis désolée, par exemple, si on prend mon cas, Adeline n'arrive pas vraiment à être talentueuse, impertinente, originale, classe, glamour et mystérieuse. De Dush et Jonathan, elles ont déjà un peu plus leur truc. Il y en a une, elle fait de la radio, l'autre de la guitare et tout machin. Mais peut-être qu'un jour, il y en a une, celle qui se maquille le soir, qui va péter un boulard, qui va sortir et qui va dire hey, « Eh les gars, là maintenant c'est moi qu'on regarde, ok ?» Voilà, c'est ça un drag queen. Mmh. C'est une drag queen. C'est quelqu'un qui s'impose, c'est une femme qui a du caractère, ou un homme, parce que dans le cas d'un drag king, et qui a de la prestance. Et puis aussi, bah, j'aime les paillettes, et j'aime la dérision, et j'aime la parole libre et l'humour. Alors du coup... Voilà. Je sais pas, Kamel, toi, si c'est des valeurs que tu retrouves aussi dans ce...
Ah, complètement, moi je suis...
Il est pas du tout paillette et humour, Kamel.
Pas du tout. C'est vrai que la petite barbe bien huilée comme ça, ça...
C'est pas du tout son genre.
En fait, on ne révèle rien, c'est vrai. Non, et puis c'est vrai que RuPaul, ça a été comme pas une révélation, mais comme un coup de cœur, un coup de foudre avec cette émission que j'ai... Voilà, vraiment, je suis tombé dessus par hasard. Je savais quelques trucs dessus, mais il y a vraiment quelque chose là, qui m'a pris... dans les tripes et je me demande parfois s'il n'y a pas un petit Kamel en moi qui souhaiterait sortir et s'habiller un petit peu avec des hauts talons de 18 par exemple pour commencer.
Ben, je crois qu'on va monter un show.
Ah mais oui, complètement. Non, et c'est vrai que voilà, et c'est vrai que les messages et les valeurs qui sont aussi qui sont dans cette émission, elles font écho en moi.
Mais moi aussi je pense que c'est ça qui est assez fantastique pour un télécrochet.
Donc vous recommandez fortement RuPaul's Drag Race.
RuPaul's Drag Race.
Eh ben merci, parce que je vais dire un truc. Max, si tu m'écoutes, ils m'ont donné envie de regarder l'émission.
Ah ben voilà, au moins ce sera pas fait pour rien. Hein.
Exactement. Hein,
et j'ai juste une question, le gars sans casque à la technique. est-ce qu'on peut le voir ailleurs que sur ce service payant?
En effet, de toute manière, vous trouverez les premières saisons, c'est-à-dire la saison 1 à 5, en streaming, sur des sites classiques de streaming.
Ok, nickel.
Voilà, et puis je pense que très rapidement...
Ça se télécharge.
Ça se télécharge, ça se trouve...
Télécharge quoi ?
Ça c'est légalement, évidemment.
Bip !
Alors un autre petit conseil, hein, faut vraiment le voir en VO. Hein, puisque
la
répartie, les phrases assassines...
Ah oui, puis il y a du jeu de mots, il y a du... Et puis ça va à la volée, quoi, c'est au taquet. Moi, je vous spoil pas, mais il y a de ces saisons. On va peut-être passer à la musique, hein.
That wow. see that wow. That wow.
Eh ben, voilà, vous êtes bien dans la causerie sur Radio Canu et puis vous venez écouter C'est la drogue de Repulse, voilà.
Okay. On dirait que t'as passé un gros titre de métal, tu sais. Ouais.
Eh bien, c'est Fab qui va prendre suite et la fin de cette causerie avec...
Après ce flot de paillettes, on change totalement de sujet.
C'est ça, tu vas nous parler d'un livre.
Oui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Propaganda et qui est de Edouard Bernays. Alors voilà, je vais d'abord vous caler l'auteur, qui c'est que ce brave monsieur. Alors Bernays ou Bernays, ça dépend comment vous le prononcez, c'est écrit B-E-R-N-A-Y-S. Je l'ai entendu Bernays tout le temps, alors je vais le prononcer comme ça. L'auteur, il est né en Autriche à Vienne le 22 novembre 1891 et il est mort à Cambridge dans le Massachusetts le 9 mars 1995. Il est mort à l'âge de 103 ans, comme vous avez pu le faire le calcul. Voilà. Donc après avoir suivi ses parents, ça c'est ce qu'il dit, mais comme s'il avait eu le choix, mais pas vraiment, dans leur traversée vers les USA, il va faire des études de journalisme à l'université de Cornell. Alors pour ceux qui connaissent l'université de Cornell, c'est une université privée qui est réputée pour pondre des prix de Pulitzer, c'est-à-dire des très bons journalistes. Voilà. Il sera d'abord journaliste, puis agent de presse, mais très vite il comprend que sa passion est l'étude des foules et surtout la capacité à les diriger. Il en fait un peu son dada. Durant ses études, il va se passionner pour les travaux du français Gustave Le Bon, qui avait fait un gros travail sur la psychologie des foules. Pour lui, donc pour Le Bon, la démocratie n'a de différent des dictatures que dans la façon de convaincre sans réelle violence. Voilà. Plus tard, il va combiner cela aux travaux du Britannique Wilfrid Trotter sur la psychologie sociale. Vous voyez, donc les foules, le social. Et comme Bernays est le double neveu de Freud, parce que son papa, c'est le frère de la femme de Freud et sa maman, c'est la sœur de Freud, donc il est deux fois le neveu, il se passionnera pour les travaux de son oncle et les combinera avec tout ce qui précède. Psychologie, psychologie des masses, psychologie des foules. Psychologie sociale, psychologie des foules. De ce mélange, il va le tirer une idée. La propagande est l'outil absolu de contrôle des foules. Voilà, c'est ce que le livre vous dit, Propaganda. Il va donc théoriser tout ça dans ce livre, Propaganda, et c'est un livre qui fera date, mais qui surtout a révolutionné le monde, et comme le dirait Barack Obama, sans doute autant que la Bible elle-même. Voilà, donc c'est pas rien hein, d'imaginer qu'un président des États-Unis a parlé de propaganda comme ça. Voilà. Alors le livre, il sort en 1928 aux USA. Bernays a mis à peu près 5 ans pour l'écrire, c'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui disent qu'il a mis beaucoup moins de temps, mais qu'en fait il aimait bien se donner un petit air, un petit côté j'ai beaucoup travaillé sur ce que je vous donne. Voilà. Et en fait c'est la somme de ses expériences passées. Alors c'est écrit dans un style purement journalistique, c'est extrêmement accessible, c'est pas du tout un truc pédant qui cherche à écraser les autres, c'est pas un truc d'universitaire qui cherche à vous mettre des mots très compliqués dans la tête, c'est vraiment comment moi, donc pas moi, hein, mais moi, Edouard Bernays, j'ai réussi à diriger les foules. Voilà, c'est ça, Propaganda, hein, très clairement. Et c'est un livre pour comprendre comment manipuler les foules. C'est une sorte de vademécum, comme on dit. C'est, tu lis ça et normalement, après, t'as à peu près compris comment ça marchait. Alors, le travail de Bernays, il commence en 1916, quand il est recruté par un ami auprès du président américain. À l'époque, il est conseiller... il va créer le terme plus tard, mais on va dire qu'il est conseiller aux relations publiques. Voilà. D'ailleurs, c'est même Bernays qui va inventer ce nom de relations publiques. Enfin, tout ce que vous entendez aujourd'hui, c'est lui qui a inventé cette locution-là. Et en fait, il est recruté pour faire de la propagande. Et très clairement, on le recrute pour ça. Et pourquoi ? Parce qu'en 1916, en fait, il y a la création de la commission CPI. Alors, c'est le Committee of Public Information, qui est créé, en fait, pour retourner l'opinion américaine. Pourquoi ? Parce que le président de l'époque avait été élu sur des positions pacifistes, qui dirait qu'il n'allait pas participer à la Première Guerre mondiale, et qu'en fait, les États-Unis, poussé notamment par des industriels, a très très envie du coup d'aller participer à la Première Guerre mondiale. Sauf qu'il vous faut l'assentiment de la population, parce que c'est quand même les enfants de la population que vous allez envoyer se battre. Donc ils ont créé la CPI, hein, c'est historiquement prouvé, hein, c'est pas un truc secret, c'est pas un complot, qui avait pour rôle de retourner l'opinion américaine. Et c'est Bernays qui va être l'un des plus grands instigateurs des méthodologies de cette commission. Voilà. Et il démontre en fait que même si les gens ont voté pour un président pacifiste et contre la guerre, l'opinion peut se retourner très facilement par l'utilisation de ce qu'il appellera les relations publiques. Alors c'est quoi les relations publiques ? Parce que quand on dit ça, on n'a rien dit quoi. Et bien les relations publiques, en fait, c'est les fameux leaders d'opinion. Et les leaders d'opinion, ben, ça va être soit des gens que vous rémunérez pour aller faire votre promotion. Alors par exemple, à l'époque, ils rémunéraient des gens pour se lever spontanément dans les cinémas et dire « Il faut aller faire la guerre au Kaiser parce que le Kaiser, il est vilain !» Vous voyez, voilà. Bon, en fait, on les payait pour dire ça. Mais ça donnait l'impression que c'était des gens comme ça qui avaient une sorte d'envie patriotique.
Oui.
Voilà. C'est les religieux aussi. Alors ça, Bernays, dans ses livres, il n'arrête pas de le dire. Les religieux, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire passer une idée. Mettez-vous les religieux dans la poche, ça marche tout le temps. Voilà. Les militaires aussi, parce qu'il dit les militaires, c'est... Alors il ne le dit pas comme ça, mais presque. Hein, il dit c'est con. Et en fait, ça fait ce qu'on leur dit de faire et c'est vachement bien.
Bah, ça obéit, quoi.
Et plus étonnamment, les groupes extrémistes. Alors, j'ai... aussi bien d'extrême gauche que d'extrême droite. Et c'est là que c'est intéressant, parce que Bernays dit, en réalité, il faut toujours les faire réagir, parce qu'à la fin, c'est toujours celui qui incarne l'État, on va dire, cool, qui finit par gagner. Voilà, vous voyez, ça fait réfléchir hein, quand même. Bien sûr, il y a la presse, où il explique qu'en fait, il faut que les relations publiques fournissent clé en main des articles à la presse, parce que comme ça, bah, les journalistes ont moins de boulot. Et puis il explique par exemple, qu'il faut mettre sous pression la presse, économiquement parlant, pour qu'il y ait le moins de journalistes possible. Comme ça, les articles clés en main, ils passent plus facilement. Vous savez, ça vous rappelle des trucs hein, quand même.
Mm-hmm.
Voilà. En utilisant aussi des réseaux d'amis et de personnes qui vous doivent quelque chose. Voilà, hein, ça marche bien aussi.
C'est pas de la corruption.
C'est une forme de corruption, mais comme il le dit, c'est pas de la corruption. C'est genre, vous avez fait vos études avec un pote, il vous connaît bien.
C'est bon. Avoir de la mémoire.
Voilà.
Bah oui, bah oui, pardon. Voilà. Excusez-moi, j'avais oublié qu'on avait de la mémoire que dans certains réseaux.
Voilà. Et donc, pour lui, il est aisé, avec tout ça, de créer les conditions du retournement de l'opinion. Alors, ça peut paraître simple, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Mais par contre, c'est méthodique. C'est ça en fait qui est impressionnant dans Propaganda, c'est que vous voyez la méthodologie et le côté méthodique des choses. Il décrit aussi les outils à utiliser. Alors par exemple, il dit il faut caricaturer l'ennemi, le rendre inhumain, sous-entendre le pire sur son ennemi toujours, personnaliser les slogans, parler plutôt d'une personne que d'une idée. Un petit exemple, faire la fête à Macron plutôt que de faire la fête au capitalisme. Voilà, coucou la France Insoumise. Utiliser des images...
C'était pas la France Insoumise, c'était un mouvement populaire. Non, pardon.
Voilà. Non mais vous voyez, c'est un exemple typique. Utiliser des images choc, même quand on sait qu'elles n'ont pas de réel lien avec la vérité, de ce qu'on défend, mais parce qu'elles vont... bloquer le cerveau et que du coup vous faites passer une idée très facilement. Créer des monstres via le cinéma, ou aujourd'hui Internet ou la télé. C'est-à-dire avec de la propagande visuelle, voilà. Alors, on se rappelle tous dans les années 80 des films américains qui caricaturaient les communistes, enfin l'URSS, comme des monstres absolus, et ça c'était exactement dans la même logique de propagande, voilà. C'est vertigineux parce que quand on lit Propaganda, on comprend d'un seul coup que cela est utilisé à grande échelle dans les démocraties modernes, aussi bien par la gauche que par la droite, hein. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde l'utilise. Pire, ce livre explique comment ces outils sont passés des mains des États et des partis politiques aux mains des multinationales pour imposer des modes de vie. Alors je vous invite à vous passionner pour l'exemple du petit déjeuner à l'américaine, vous savez le fameux bacon et œufs, qui n'est en fait qu'une création publicitaire parce qu'il y avait besoin de vendre des œufs. Voilà, ou sur le fait qu'il y a un lien étrange entre émancipation féministe et cigarettes. Voilà, je vous laisserai chercher. C'est glaçant et pourtant tout est vrai. Voilà, c'est Bernays qui a fait tout ça. D'ailleurs, on ne sera pas étonné que Goebbels s'inspira énormément des travaux de Bernays pour le parti nazi, que Ford s'en empare pour la publicité et ses marques, et que Staline appréciait ce livre comme un excellent outil, même s'il est américain. Voilà.
Que des gens formidables.
Ça, c'est des citations, hein, donc voilà. Ouais. Ce livre sent le soufre au point qu'on refuse souvent de lui donner le poids qu'il a réellement. Mmh. Oui, ce livre, comme l'ensemble des travaux de Bernays, ont révolutionné, ou plutôt asservi, notre monde. Il est, avec Milton Friedman, le second pilier du capitalisme et du consumérisme triomphant. Le but de Bernays est simple. Là où les dictatures ont besoin de la force pour s'imposer, les démocrates, eux, doivent user d'outils de manipulation de masse doux et qui soient acceptés par la population. Une chose est claire, Bernays classe les syndicalistes et la gauche européenne en général comme non démocratiques. Vous comprenez maintenant pourquoi il aura été aussi le fer de lance de la lutte contre les révoltes sociales des années 20 et des années 40 aux USA. Voilà, ça parle, on comprend vite les choses. Hein. De la même façon, ces outils seront utilisés pour déstabiliser des pays d'Amérique du Sud comme le Guatemala. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il convient de lire les idées qui le fondent. Propaganda n'est pas un livre secret ou non abordable. Hein. Mm. Vous le trouvez dans n'importe quelle bibliothèque, médiathèque, vous pouvez le commander.
On le conseille à tous les gens qui font une prépa.
Oui, tout à fait, d'ailleurs. Et moi, je vous conseille une édition en particulier, qui est, c'est les éditions... Alors, je ne me rappelle plus, c'est Zone, mais je ne me souviens plus de chez qui c'est. Bah, si, c'est les éditions, hein, ouais, c'est Zone, vous cherchez ça. Et c'est l'édition qui est préfacée par Norman Baillargeon. Ah, oui. Voilà, parce que, justement, il replace historiquement les choses, et surtout, il explique que c'est toujours utilisé aujourd'hui. C'est surtout ça qui est intéressant. Voilà, ça se trouve, c'est un petit peu pas très cher, mais je sais plus le prix. Voilà.
Je vais chercher ça.
Voilà. Et donc voilà, il faut le lire. Il est très simple d'accès, hein, vraiment. C'est très très basique, mais il fait froid dans le dos parce que je viens juste à dire deux choses. Il y a des universitaires qui aujourd'hui utilisent toujours ce livre-là, utilisent les méthodes, mais n'osent jamais le dire parce que Bernays a été le seul au monde à affirmer vouloir contrôler les foules. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais caché que son but, c'était le contrôle des foules. Donc forcément, il paraît un peu pourri. Alors quand vous faites quelque chose qui est issu de ça, vous ne dites pas « Ah ben, je me suis inspiré de propaganda », vous voyez. Alors, juste quand même, vu sa longue vie, hein, il a juste été le conseiller de 15 présidents américains, ce qui est pas mal, hein, quand même. Voilà, et donc, lisez-le, ça permet de décrypter le monde qui nous entoure sans sombrer dans le complotisme et la facilité, justement, en comprenant que ce ne sont que des outils, de la méthodologie. Comprendre comment est né le marketing moderne, la propagande de masse et les relations publiques politiques ne peut que nous aider à ne pas sombrer à notre tour dans ses travers. Voilà. Coucou la France Insoumise. Un petit plus quand même. Un excellent reportage passe en ce moment sur Arte. Vous le trouvez sur Arte Plus 7 ou sur YouTube. Il s'appelle Propaganda, la fabrique du consentement. Et en fait, c'est vraiment un complément au livre parce que il donne des exemples concrets. J'ai pas le temps là, de vous détailler.
Mais il parle des femmes et de la clope. Voilà, il parle du petit-déj aussi avec le bacon et tout.
Et des liens avec les présidents qu'il a eu entre 1916 et 1989. Hein, je le redis, 1907-1989. Vous voyez le nombre de présidents américains. Voilà. Et puis c'est juste, je vous conseille de lire ce livre et de voir le reportage. Voilà, je voulais en parler ce soir parce que il me semblait important.
Mais tu fais bien, je pense. Ouais. Et je voulais dire qu'effectivement, Zone est un label des éditions La Découverte.
Voilà, c'est La Découverte.
Voilà.
Et juste quand même pour vous dire comment commence le livre, mais je vais le faire en deux secondes, il faut que je le retrouve. La manipulation, ça c'est Bernays qui parle, hein. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement les pays. Voilà, et je vous laisse dire la suite.
Merci. On passe à la musique.
Ouais.
Allez, on passe à la musique alors.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org et vous venez d'entendre Oraculum du groupe Helvellon et c'est un groupe allemand de métal symphonique. Coucou Laurent.
C'était tellement agréable.
Et on va passer aux brèves.
Eh ben les brèves, alors toute la semaine c'est les permanences d'aide aux travailleurs sans papier qui a lieu tous les jours de 10h à midi à l'union départementale CGT qui est au 215 du cours Lafayette dans le 6e arrondissement. Le lundi, donc ça c'était toute la semaine, hein, ouais. Tous les jours. Lundi 11 juin, il y a des cours de langue à destination des migrants et migrantes de 18h à 20h au local de la Plume Noire, au 8 de la rue Diderot dans le 1er arrondissement. Et une autre permanence de soutien aux sans-papiers et à leurs proches qui elle a lieu à la Lutine au 91 rue Montesquieu dans le 7e arrondissement, donc le lundi de 18h30 à 20h.
Ensuite, toujours le lundi 11 juin, il y a un appel à soutien contre l'expulsion de la maison Mandela qui est assignée par la métropole. La maison Mandela, un ancien bâtiment vacant de la métropole, abrite et sert de refuge depuis le mois de janvier aux personnes sans-abri qui avaient été expulsées de l'esplanade Mandela, près du quartier de la Part-Dieu. Le 12 février 2018, des membres du collectif Agir Migrants ont été assignés devant le tribunal par la métropole. Malgré l'ordre d'expulsion signifié pour le 1er avril, la maison Mandela est toujours debout. Le collectif Agir Migrants appelle à un rassemblement devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, 3 rue du docteur Pierre Papillon, métro gratte-ciel, le lundi 11 juin à 9h.
Et donc le mardi 12 juin, le lendemain, après la caserne Chabal, donc c'est la résidence de la Sarah, c'est autour du foyer de Bron, de sortir les résidentes. Donc un tri entre les 15 familles logées depuis novembre dans le foyer a été fait. Et la direction du foyer, sur décision préfectorale, a demandé aux 9 familles hors critères, entre guillemets, de quitter les lieux sans proposition de logement. Donc les habitants et habitantes et collectifs présents sur place, donc j'ai jamais sans toi, Secours Populaire, RESF Bron, MRAP Lyon, un quart, vous invite à deux rendez-vous. Mardi 12 juin 2018, le petit déjeuner solidaire avec les résidents et résidentes, et de 7h30 à 12h30 au 25 avenue François Mitterrand à Bron.
L'autre est plus tard dans les brèves.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
Oui.
Toujours le mardi 12, contre les violences et pour plus de moyens humains en psychiatrie. Il y a une manif devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Rendez-vous donc mardi 12 à 13h devant Saint-Jean-de-Dieu, suite à la récente agression très violente à l'encontre de 3 infirmières. Assez de violence à l'hôpital dû au manque de moyens de l'humain pour faire du soin en psychiatrie.
Et le mercredi 13 juin, le comité Tchétchénie-Lyon vous invite à une rencontre débat avec Irina Gordienko, qui est une journaliste russe de Novaya Gazeta. Alors Irina s'est illustrée en 2017 par une remarquable enquête pour Novaya Gazeta, menée avec sa collègue Elena Milashina, qui a permis de mettre à jour les terribles persécutions, tortures, meurtres, humiliations dont sont victimes les homosexuels en Tchétchénie et plus largement en Russie. Une enquête qui a connu un retentissement mondial et donc la rencontre est avec le concours d'Amnesty International et de la Ligue des Droits de l'Homme et c'est à 18h à la mairie du 1er arrondissement, place Satonnet dans le 1er.
Et donc jeudi 14 juin 2018, un repas solidaire avec les habitants et habitantes du foyer de Bron, donc victimes d'expulsion, suite à l'action donc du mardi 12 juin. Rendez-vous entre 18h30 et 21h30 au 25 avenue François Mitterrand à Bron. Et aussi, ce jeudi 14 juin, une discussion avec un volontaire communiste libertaire au sein du YPG est proposée, donc une conférence projection et débat sur le Kurdistan avec comme invité Arthur Abel à Berlin, camarade communiste libertaire, revenu des YPG, ainsi que deux de ses camarades révolutionnaires. Rendez-vous à la maison de la Mésopotamie, 11 rue Massagrand, 697 Lyon, dès 19h.
Eh bien, on a bientôt fini, on vous rassure. Vendredi 15 juin, c'est une rencontre avec Esteban, un anarchiste vénézuélien. Dans le cadre de sa tournée européenne d'information et de collecte de dons divers, pour la ferme et l'espace contre-culturel autogéré, la Libertaria, et aussi en soutien au serveur d'information militante contrapoder.org, ainsi que Indie Media Venezuela, le groupe Graines d'Anar, membre de la Fédération anarchiste, vous invite donc à une rencontre projection débat avec Esteban, notre compagnon vénézuélien. Cela aura lieu le vendredi 15 juin 2018 à 19h à la librairie La Griffe qui se trouve toujours au 5 rue Sébastien Griffe. Et je voulais juste préciser vite fait que Esteban, on l'avait interviewé l'année dernière
Dans la causerie.
Dans la causerie, c'est ça, merci.
Samedi 16 juin, et ben vous savez qu'en ce moment, c'est la quinzaine des fiertés. Et vous pouvez trouver tous les rendez-vous sur fierté.net. Alors, fierté sans accent. Fierté.net. Voilà. Et sinon, ben, le samedi 16 juin, c'est surtout la marche des fiertés. Et c'est à partir de 14h, place Bellecour, avec un passage par le Vieux Lyon cette année. Youhou ! Ça, c'est cool. Alors, rejoignez la marche, que ce soit pour vous éclater derrière un char commercial ou pour revendiquer derrière une association, un parti ou un syndicat. Mais dans tous les cas, soyez là, fiers et sans peur.
Je voulais juste quand même vite préciser le youhou qu'on passe à Vieux-Lyon, c'est juste parce que ça fait des années et des années que la préfecture interdit au cortège de passer Vieux-Lyon parce que des soi-disant raisons de je sais pas quoi, c'était pour garder ce quartier pour les fascistes, même si on sait bien que tous les habitants et habitantes ne sont pas fascistes
et qu'ils subissent même
et qu'ils subissent la violence des groupes extrême droite. Donc là effectivement, c'est pour ça qu'on était heureux de se dire on va pouvoir y passer quand même.
Et ouais.
Ouais, carrément.
Eh ben ok, on fait comme ça.
Voilà. Et donc dimanche 17 juin, dans le cadre du festival anti-patriarcal, hein, parce qu'il y a les fachos et les gens qui sont patriarcaux et c'est de la même engeance, hein, voilà. Donc il y a la diffusion en accord avec tous les composantes de ce festival du film Pride, donc un film qui porte sur l'union entre la lutte LGBT et les syndicats de mineurs dans le Royaume-Uni thatchérien. Comme Margaret Thatcher. Et c'est donc à 15h30 au local de la CGA, à la Plume Noire, au 8 rue Diderot, dans le 1er arrondissement.
Et oui. Et ben voilà,
et
je crois qu'on
sinon,
est.
À 22h, il y aura la causerie.
Évidemment, de toute façon, le film il commence à 15h30, c'est bon, 22h, vous serez là. Hein.
Petite précision, il n'y aura pas Georges le 17 juin, contrairement à ce que Georges avait dit dans sa dernière émission, parce qu'il décale.
Il est comme ça. Bravo, le gars.
Il est comme ça,
le gars. Il est un petit peu décalé, non ?
Un peu décalant. Voilà. Et sinon, moi, je voulais saluer une émission qui s'arrête, qui s'appelle Musique, etc., oui, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle s'arrêtait. Et pour moi, c'était une des meilleures émissions de Radio Canu. Alors, j'en suis vraiment très triste.
C'est ça. Voilà. Qui recevait plein de groupes locaux toutes les semaines, un groupe local de musique, etc.
C'était les dimanches à 11h.
C'est ça. Guillaume, un petit coucou s'il nous écoute.
Voilà.
Et ben, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, je crois bien. Bon, peut-être pas.
Pas MK.
Pas toi.
Non.
Non.
Non, le week-end prochain, j'ai décidé de faire autre chose.
Mais quel bourgeois.
Tout à fait.
Et bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. On vous souhaite bon courage pour toute la semaine à venir.
Des bisous.
C'est ça,
des
bah, tout plein.
Pour cœur papillon.
Smiley.
Exactement.
Ciao. On se quitte avec quoi? Ah oui. Et ben pour terminer, oh là là, pour donner, pour continuer cet hommage à Marc Augeret, nous
ce
avons
grand homme.
Ce grand homme qui était petit, je crois. pardon. Nous allons passer le triomphe de l'anarchie. Posez-vous, écoutez ce merveilleux titre et dites-moi que vous n'avez pas envie d'aller vers l'anarchie, c'est pas possible.
Faites-vous plaisir.
Allons-y tous les jours. Ciao.
Allons-y.
J'ai dit le triomphe de l'anarchie, Marc Augeret.
Oui. Ok.
Eh ben vas-y, balance le jus.
C'est parti.
Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Empare-toi maintenant de l'usine, du capital ne soit plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure n'ont de valeur qu'en leur utilité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. On rêve amour dans les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Où est la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, je ne conscris, mieux te vaut déserter. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Quand ta pensée invoque ta confiance, avec la science il faut te concilier. C'est le savoir qui forge la conscience, l'être ignorant est un irrégulier. Si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire, ton avenir est dans la vérité. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Place pour tous au banquet de la vie, notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Que la nitro comme la dynamite soit la pendant qu'on discute raison. S'il est besoin, renversons la marmite, mais de nos mots a-t-on la guérison. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. C'est reculer que d'être stationnaire, on le devient de trop philosopher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.